Bon, je vous propose de commencer ce conseil municipal par, comme d'habitude, l'appel des présents. Donc, monsieur Olivier Bonduel a donné pouvoir à monsieur Jean-Yves de Ripper. Madame Marie-France Martin-Bagard est présente. Monsieur Marc Lerouzic a donné pouvoir à madame Janine Le Golvan. Madame Christine Lamandé est présente. Monsieur Jean-Yves de Ripper, madame Janine Le Golvan, madame Françoise Le Pennec. Monsieur Charles Bietri a donné pouvoir à madame Armelle Moreau. Madame Marie-Vonne Belleuil. Monsieur Philippe Audot a un peu de retard. Madame Catherine Isoard. Monsieur Patrick Lotaudet. Madame Christine Desjardins, pardon. Je vois des Catherine partout. Monsieur Michel Durand. Madame Morgane Petit, absente. Monsieur Gérard Marc-Albert, absent. Pouvoir à monsieur Michel Durand. Madame Karine Le Déveat, absente. Monsieur Hervé Le Donnant, absent. Pouvoir à monsieur Pascal Lejean. Madame Monique Thomas, elle arrive, on va dire qu'elle sera présente. Monsieur Jean-Luc Servet, présent. Madame Nadine Rouet, présent. Monsieur Pascal Lejean, madame Armelle Moreau, présent. Monsieur Loïc Oudois, présent. Madame Sylvie Robineau, présent. Monsieur Paul Chapelle en vacances, pouvoir à monsieur Olivier Lepic et Olivier Lepic. Ici, je tiens quand même à mettre un peu. Monsieur Olivier Lepic, présent. Nous avons donc le quorum et nous pouvons donc délibérer. Nous avons besoin de désigner une secrétaire de séance. Madame Françoise Le Pennec. Merci pour cette... Mardine, tu dois partir à 19h45 Nadine, c'est la chaleur, excuse-moi. D'accord, ok, pas de problème. Parfait, on peut donc passer donc à l'ordre du jour, la désignation de la secrétaire de séance étant effectuée par l'approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 10 mars 2017. Est-ce qu'il y a des... Donc, Madame Thomas présente. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce procès-verbal? Pas de remarques? Il est donc approuvé à l'unanimité, je vous remercie. Le procès-verbal du Conseil municipal suivant du 24 mars 2017. Pas de remarques? Je pense qu'avec le nouveau système d'enregistrement, ça rend les choses un peu plus, effectivement... fiable, et c'est tant mieux. Alors, le compte rendu des décisions du maire prises en vertu des délégations accordées par le conseil municipal. Elles sont numérotées de 46 à 88. Et donc, si vous avez des questions sur ces décisions du maire, eh bien, c'est le moment. Pas de questions ?
Oui, toujours la même remarque, c'est ma spécialité. Au niveau des contentieux et puis des consultations honoraires d'avocats pour des consultations juridiques, pour beaucoup de choses, je trouve qu'à la fin de l'année, ça fait beaucoup, beaucoup.
Et toujours la même réponse, Madame Bagarre, quand on a un contentieux dont on n'est pas à l'origine, on est malheureusement obligé d'y répondre. Si on vous attaque en justice, vous êtes obligé d'ester vous-même et vous défendre. Mais vous avez raison, c'est un crève-cœur, c'est évident. Mais si vous avez une solution pour limiter les conflits en matière urbanistique, je suis preneur.
Mais j'ai remarqué aussi qu'il y avait beaucoup de consultations juridiques concernant toutes les questions d'urbanisme.
Bien sûr, parce que l'urbanisme est devenu tellement complexe avec un enchevêtrement de lois. Et par ailleurs, vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes dans un contexte encore un peu fragile, puisqu'un certain nombre de lois importantes, dont les lois Allure, sont entrées en vigueur il y a très peu de temps. Et donc, on a une interprétation qui est encore incertaine et qui est faite au fil de la jurisprudence. Et donc, quand une nouvelle disposition entre en vigueur, il y a une multiplication, effectivement, des contentieux, puisque c'est le juge, quelque part, qui interprète un certain nombre des dispositions de la loi. Donc, c'est un phénomène qu'on a déjà connu avec la loi Littorale et qu'on va connaître pendant quelques mois, avec, et peut-être même quelques années, avec la loi Allure.
Bien. J'ai fait le calcul. Contact, oui. Pratiquement 100 000 euros sur une année, hein.
Oui, et donc, qu'est-ce que vous proposez pour le réduire?
Je sais pas, un service juridique à la mairie, compétent?
Non, malheureusement, je crois qu'on a besoin de compétences tellement pointues et on a besoin d'avoir non seulement des avocats, sachez bien que c'est jamais de gaieté de cœur qu'on a recours à ce type de dépenses, mais malheureusement, les enjeux pour la commune peuvent être bien supérieurs aux dépenses de fonctionnement d'une année en consultation d'avocats, parce que si des fois on perd un procès, les conséquences financières peuvent être très très supérieures. Pas d'autres questions sur ces décisions du maire ? Je vous remercie. On passe à la délibération donc numéro 5, Monsieur Lejean, sur l'indemnité des élus, qui est modifiée donc par la modification d'un indice. Je crois qu'on est la dernière commune du territoire à passer cette délibération.
Alors, tout à fait. Donc, l'indice de référence était l'indice 1015, et donc il y a aujourd'hui un changement sur l'indice, puisqu'il faut prendre l'indice brut terminal de la fonction publique, et qui fait effectivement un changement que nous devons passer en conseil municipal. Alors, ça a pour but, qu'on soit bien clair, c'est exactement les mêmes indemnités qu'il y a pour les élus. Il y a peut-être une évolution qui doit être à la hauteur d'un euro 50.
En augmentation.
Merci, Monsieur de Ripper.
En augmentation. Oh. Ok. Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport? Je vous remercie. On peut donc passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Unanimité. Je vous remercie. On passe au rapport numéro 6, délégation de services publics du casino. Le rapport d'activité 2015-2016. Monsieur Lejean, je vous propose d'être synthétique. Je pense que tout le monde peut prendre connaissance de ce rapport.
Tout à fait. Le rapport est à la disposition de l'ensemble du conseil municipal. Donc, juste pour rappel qu'il y a eu un changement de gouvernance, puisque au mois de septembre 2016, je vous rappelle que l'exercice de casino vont du 1er novembre au 31 octobre. Au mois de septembre 2016, donc, il y a eu un changement de propriétaire, puisque le casino de Carnac, qui appartenait au groupe Barrière, a été repris par la société franco-belge de casino. Et donc, ce qui a fait un débat en conseil municipal, puisqu'en même temps, il y a eu une révision des taux. Donc, l'activité du casino a été effectivement en baisse sur l'année 2016, suite à l'ouverture définitive de la Mort-Plage et à l'ouverture provisoire de Vannes. Je fais court, synthétique. Je pense qu'on en a assez débattu pour savoir ce qu'il y en est. Aujourd'hui, l'investissement qui a été fait, vous avez vu un article dans le journal cette semaine, par rapport à la société franco-belge de casino, ils ont fait un investissement. Et effectivement, on a un casino qui, pour l'instant, redémarre en termes d'attractivité et d'activité.
Monsieur Deripa.
Concernant le compte 471 et les 310 000 euros qui étaient destinés à réaménager les abords du casino, est-ce qu'il y a un planning?
Alors,
qui a été établi, un planning de travaux? Est-ce qu'on sait quand est-ce qu'ils vont être exécutés? Parce que je crois qu'ils doivent être exécutés avant le 31 octobre 2018, si je me souviens bien.
Donc il y avait dedans un échéancier qui vous avait été proposé. Effectivement, pour l'instant, les fonds n'ont pas encore été débloqués.
Mais il n'y a aucune information sur ce qui va être fait sous quel délai? Parce qu'il reste un an. Quoi.
Tout à fait. On reste dans ce qui avait été prévu dès le départ, que ce soit au niveau du casino ou au niveau de la mairie. Et donc aujourd'hui, pour l'instant, les fonds ne sont pas encore débloqués, puisqu'il faut faire la convention et avoir effectivement l'aval de la préfecture. Ce qui va être fait dans les mois à venir pour la rentrée.
Bien. Une deuxième question. J'ai lu dans le compte-rendu de la commission finances que vous alliez commencer les négociations de la DSP qui se termine en 2020.
Tout à fait. Nous avons évoqué qu'il fallait se préparer pour effectivement la convention pour 2020, donc de la préparer. Et donc nous avons passé en commission des finances, pardon, la possibilité de pouvoir solliciter le cabinet Espelia pour nous accompagner dans cette DSP.
La négociation, elle porte sur le cahier des charges qui a été signé en 99.
Oui.
Et on a vraiment besoin, pour renégocier ce cahier des charges, d'être accompagné par un cabinet.
C'est spécifique.
C'est une question, parce que
c'est spécifique. J'ai lu
le cahier des charges, c'est quand même pas excessivement compliqué.
C'est pas excessivement compliqué, mais après nous être renseignés, parce que j'ai eu initialement la même réflexion que vous, d'abord la législation a un petit peu évolué, ensuite une DSP est engageante pour un grand nombre d'années, un certain nombre de dispositions, encore une fois, ont évolué, et donc il y a un certain nombre de mécanismes sur lesquels il faut être extrêmement prudent, et je préfère que nous soyons accompagnés par un cabinet avec lequel on a déjà été un petit peu en contact et qui travaille pour les communes spécifiquement dans ce genre de dossier. D'abord, c'est un dossier un petit peu particulier. Encore une fois, notre opérateur est propriétaire des murs. ce qui nous met pas forcément dans une position, je dirais, forte pour la négociation. Et donc, on a, ce cabinet est habitué à ce type de négociation avec d'autres opérateurs. Évidemment, je ne souhaite pas dépenser beaucoup d'argent dans cette opération, mais en toute objectivité, après avoir examiné le dossier, je pense que c'est préférable, sur une question aussi importante, avec des revenus récurrents aussi importants pour la commune, d'avoir une totale sécurité juridique et une assistance dans le cadre de la négociation. On a face à nous, et je peux vous dire qu'avec M. Lejean, on a eu plusieurs réunions, on a des vrais professionnels qui défendent très bien leur activité, ce qui n'est pas notre cas. Enfin, voilà, moi, je suis habitué à faire des négociations, mais pas forcément dans ce domaine-là. Et parfois, le diable se loge dans les détails. Et je préfère être accompagné pour des questions extrêmement pointues comme ça. Les élus, y compris les fonctionnaires, ne sont pas forcément des spécialistes des DSP en particulier et dans celles qui nous lient à des casinos. Donc je préfère vraiment qu'on soit accompagné, mais je veillerai à ce que le montant reste raisonnable.
Là, vous avez raison de dire que ce sont des professionnels. On s'en est aperçu quand ils ont renégocié les taux.
Je vous rappelle que
Ça, c'est encore une fois une déclaration facile de quelqu'un qui n'a pas participé à la négociation et qui est gratuite, Monsieur Duripert.
C'est pas du tout gratuit, ça coûte 800 000 euros.
On fait de notre mieux. Vous auriez sans doute fait beaucoup mieux, mais je peux vous dire une chose, c'est que on a négocié très longtemps, qu'on avait en tête un certain nombre de choses que vous n'avez pas en tête, et que cette négociation, elle est au global très favorable pour la commune.
Et je pense,
encore une fois, voilà, vous avez le droit de penser ce que vous voulez.
Et je voudrais juste terminer, n'oubliez pas que nous avons quand même les taux les plus importants de l'ensemble des casinos du Morbihan. Ça n'a pas été simple comme négo, soit, mais je préfère avoir ce taux-là, même si je trouve qu'on s'en sort plutôt bien avec les taux les plus importants, que d'avoir un casino qui ferme comme à la Trinité-sur-Mer.
Je suis d'accord, M. Lejean, on ne va pas remettre ça et on ne va pas recommencer la discussion qu'on a eue il y a un mois.
Bah, donc ne la recommencez pas alors. D'autres questions sur le casino ? Parfait. Donc, il s'agit simplement de voter pour, contre ou s'abstenir sur ce rapport, mais simplement de reconnaître que le Conseil municipal a pris connaissance de ce rapport d'activité 2015-2016. Donc, tout le monde est d'accord pour dire que ce rapport a été unanimité. Je vous remercie. On passe au rapport numéro 7, Skédanos 2017, la convention de partenariat avec l'association Paysage de Mégalithes. Étant président de l'association Paysage de Mégalithes, je ne participerai donc pas au vote de cette approbation ou éventuelle, évidemment, de convention de partenariat avec l'association. Monsieur Lejean.
Oui, donc juste pour rappel, donc Skédanos est une animation à son lumière qui a lieu pendant l'été, donc depuis 2 ans, et cette année, effectivement, il a été demandé une subvention à la hauteur de 24 000 euros donc pour passer une convention avec Skédanos, puisqu'on dépasse 23 000 euros. Donc, le but de cette convention, c'est d'attribuer 24 000 euros pour l'animation des Skédanos. Derrière, nous avons eu un débat en commission finance qui, effectivement, voulait savoir le coût réel de Skédanos entre les directs et les indirects. Derrière, nous avons aujourd'hui 50 000 euros de coûts directs de Skédanos et à peu près une somme qui est quasiment identique pour les coûts indirects. Et dedans, la commune de Carnac finance 24 000 euros.
Il y a le coût, demander la parole. Vous dites la commune participe à 24 000 euros dans les coûts directs, mais dans les coûts indirects, c'est essentiellement la commune ?
Non, dans les coûts indirects, vous avez Paysage de Mégalithes, vous avez le CMN et vous avez la commune, effectivement. Mais surtout une grosse part du CMN.
Et combien du CMN ?
Je crois, de mémoire, c'est à peu près 20 000 euros.
Paysage de Mégalithes ?
Je n'ai pas tout, Monique, dans la tête.
En
indirect, je n'ai pas tout dans la tête. Sur les directs, il y a 50 000 euros, 24 000 qui sont financés par la commune de Carnac, 24 000 par le département, 2 000 en recettes directes pour arriver. Et derrière, sur les coûts indirects, alors après, on peut lister différentes choses, mais c'est un peu pour vous donner un ordre de grandeur. Si on partait d'une feuille blanche, on aurait un coût qui serait un petit peu moins de 100 000 euros, mais aux alentours de 100 000 euros.
Est-ce qu'il y a d'autres questions ?
La subvention du département, qui est puisée sur la subvention annuelle du département, si j'ai bien compris.
Alors, on est bien d'accord.
Donc la subvention... Attends, je peux terminer, monsieur Lejean ?
Bah, j'ai posé, j'ai essayé de répondre à la question pour être sûr que tout le monde...
J'en ai pas pour longtemps, pour que tout le monde comprenne bien. Donc
on a
une subvention annuelle du département à paysage des mégalithes qui est de l'ordre de un peu plus de 310 000 euros. Et donc cette subvention destinée à Skédanos, elle est puisée sur cette subvention globale annuelle. Elle est de 24 500 euros, en fait, enfin dans le tableau que vous nous avez présenté, hein, puisque c'est grâce à ces deux subventions que l'organisation de cette manifestation peut se faire. Pour moi, ça pose quand même deux questions. D'une part, est-ce que Paysage des Mégalithes a réellement vocation à organiser un spectacle de son et lumière qui n'a strictement rien à voir avec le dossier de portage du classement à l'UNESCO. La deuxième question, c'est est-ce qu'il est légitime qu'on utilise une partie de la subvention destinée à Paysage des Mégalithes pour le portage de ce classement ? Est-ce qu'il est normal, légitime qu'on l'utilise pour l'organisation de cette manifestation ? Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux que la commune reprenne à sa charge la totalité de l'organisation avec un budget qui serait voté en conseil municipal ? D'une part, et d'autre part, avec une évaluation, parce que l'évaluation des retombées n'a jamais été faite, en fait. Donc, avec une évaluation des retombées économiques éventuelles et avec une évaluation de ce que ça peut rapporter à la commune. Est-ce que ça serait pas plus clair, plus transparent d'organiser ça de cette manière-là ?
Alors, c'est moi qui vais répondre. Je connais bien les statuts de paysage du mégalithe. C'est étrange, on m'a déjà posé cette question en Assemblée générale. Les grands esprits se rencontrent.
Ne croyez-vous pas que cette réflexion est déplacée comme la vôtre tout à l'heure ?
Bah, écoutez, un partout balle au centre, hein, comme on dit au football. Elle n'est pas déplacée parce qu'elle n'est pas neutre. Vous le savez très bien, monsieur de Ripper, on n'est pas des enfants de cœur et on n'est pas des perdreaux de l'année non plus. Les statuts le permettent parfaitement. Vous imaginez bien que l'association qui est représentée par 26 communes ne vote pas depuis plusieurs années cette manifestation sans qu'un avocat ait été consulté pour vérifier que les statuts le permettent. Donc les statuts le permettent. Et je vous invite à les lire. Il n'y a aucun souci sur cette question. Et vous imaginez bien que le commissaire aux comptes nous aurait évidemment ramené dans nos buts si ce n'était pas le cas. Deux, je vous rappelle que le concept de Skédanos est propriété de Paysage de Mégalithes. Le premier Skédanos a été organisé par Paysage de Mégalithes à Erdeven. Que Skédanos n'est pas uniquement une manifestation carnacoise. Il y a également un Skédanos qui se déroule à Arzon au courant du mois d'août, et que donc les statuts de l'association prévoient, je crois que c'est l'article 4, la mise en valeur par les manifestations culturelles notamment du patrimoine mégalithique. Donc ça entre tout à fait dans les statuts de l'association. Dernier point, je trouve un peu curieux, alors que quelque part Carnac bénéficie de prise en charge financière par d'autres structures qui donc permet aux contribuables carnacois d'économiser de l'argent en mettant en valeur notre patrimoine. Je trouve un peu curieux, vous qui êtes souvent, et c'est tout à votre honneur, tenté de défendre l'utilisation efficiente de l'argent public, de nous demander de vouloir reprendre l'ensemble de cette manifestation à notre coût, ce qui, en conséquence, nous ferait que nous payerons beaucoup plus cher, enfin, le contribuable carnacois paierait beaucoup plus cher pour la même manifestation. Donc, je trouve ça un petit peu curieux. Moi, ce que je constate, c'est que cette manifestation a accueilli un peu plus de 25 000 personnes l'année dernière, que nous avons eu des télés japonaises, coréennes, sud-américaines, que le département a repris pour sa publicité, sa promotion touristique en 2017, un visuel de Skédanos qui a été distribué dans l'ensemble des salons dans lesquels le département est présent, qu'il y a eu également des visuels en région parisienne, et que je pense que c'est un investissement, probablement un des meilleurs investissements en termes d'image et de retour sur investissement. Je pense que l'événement peut encore être amélioré, hein, je suis tout à fait d'accord, mais je crois que ça permet de vraiment mettre en valeur à la fois notre commune et le patrimoine mégalithique en le faisant découvrir sous un jour un petit peu extraordinaire par un certain nombre de personnes qui ne viendraient pas forcément visiter le site. Et donc, effectivement, on pourrait envisager, d'ailleurs, si un jour Paysage de Mégalithes disait eh bien, monsieur le maire, nous ne souhaitons plus financer, ce qui est possible. Hein. C'est, encore une fois, c'est un vote de l'Assemblée générale de paysage de mégalithes. Ce n'est pas moi qui fais la pluie et le beau temps dans cette association. Il y a des maires, il y a des collectivités. On pourrait se poser la question de savoir, effectivement, si la commune ne pourrait pas reprendre cette manifestation. Maintenant, encore une fois, le concept Skédanose n'appartient pas à la commune, il appartient à paysage de mégalithes.
Et ne pourrait-il pas être cédé à la commune ?
C'est une possibilité, mais encore une fois, si on le cédait à la commune, je ne pense pas que Paysage de Mégalithes participerait à cette hauteur financièrement. Je ne pense pas que le maire d'Arzon serait ravi, parce qu'il est lui aussi particulièrement content d'avoir un Skédanose sur sa commune. Cette année, il est prévu qu'avec le matériel que nous avons acquis lors des deux premiers Skédanoses, eh bien, certaines communes organisent aussi des petits Skédanoses, et notamment Erdeven. Donc, c'est pas forcément dans l'intérêt de la commune de le récupérer. Je ne vois pas pourquoi, enfin, aujourd'hui, Skédanos se déroule. Quel est l'intérêt de la commune de le récupérer, si ce n'est de devoir assumer des coûts financiers supérieurs ?
Parce que je ne pense pas que ça soit la vocation de Paysage de Mégalithes d'organiser ce type de manifestation.
Mais ça, c'est une appréciation tout à fait personnelle.
Et d'ailleurs, j'ai repris les statuts et j'ai étudié les statuts. Alors, vous me parlez de l'article 4, je vais reprendre l'article 4. Mais quand on regarde l'objet... L'objet même
C'est peut-être le 2 ou 3, je ne sais pas. Mais
l'objet
mais
même.
Monsieur de Ripper, on a fait une consultation juridique sur le sujet.
Quand on prend l'objet même de l'association, c'est bien uniquement destiné à porter.
Non,
le dossier,
c'est aussi à mettre en valeur le patrimoine mégalithique. Et vous le verrez, c'est dans les statuts. Mais enfin, c'est vraiment des guerres picrocollines. C'est juste vraiment pour essayer de gratter en espérant faire mal. C'est un événement qui est populaire, qui a eu un succès incroyable. Et même là, il faut que vous trouviez une raison pour le démolir ou trouver... Enfin, voilà, ça existe, c'est très bien. On avait besoin d'un vrai événement avec des vrais retours internationaux à Carnac. On l'a, il n'est pas parfait, il n'est pas organisé parfaitement, mais on l'a fait, cette consultation. C'est le problème de Paysage de Mégalithes, ça n'est pas le vôtre. Même si certains aimeraient en faire un problème, la consultation a été faite. On a demandé à notre commissaire aux comptes, on a demandé à un avocat, on a eu des réponses. Que voulez-vous que je dise de plus ? On va passer au vote.
Contre ? Qui est pour ou qui est contre ?
Pardon. Oui, l'attribution d'une subvention pour l'organisation du Festival Musique. Merci, Chris.
Donc, il s'agit d'une demande de subvention pour organiser un festival de musique classique qui aurait lieu donc début septembre, organisé par un orchestre qui s'appelle Sécession Orchestra, dirigé par Clément Mao-Takax, qui est un chef d'orchestre de renom. Carnacois, en tout cas, ayant des attaches carnacoises. L'objectif de ce festival, c'était d'avoir quelque chose autour de la culture en aile de saison, et puis aussi de promouvoir notre patrimoine local, et notamment nos chapelles, par l'intermédiaire de concerts intimistes au sein des chapelles, et puis également d'avoir des concerts de musique classique plus large, avec dans ce cas-là un orchestre complet d'une vingtaine ou une trentaine de musiciens au niveau du mall à proximité du Haut Club. Il y aurait également des interventions dans les écoles pour familiariser les enfants à la musique classique, et puis un concert aussi à destination des écoles à Terraquet. Et donc la demande de subvention est de 10 000 euros.
J'ajouterai simplement aussi également que les recettes des concerts organisés dans les chapelles seront versées aux associations qui entretiennent ces chapelles à l'année, ce qui sera une source de recettes supplémentaires, et également que cette demande a été également financé par d'autres financeurs, que sont la région et le département. En tout cas, si les subventions accordées sont confirmées par ces autres collectivités territoriales. Et par ailleurs, l'objectif, c'est également d'avoir un événement récurrent en queue de saison ou en avant-saison. Là, en l'occurrence, les organisateurs ont préféré nous proposer quelque chose en queue de saison pour travailler sur des périodes sur lesquelles on a besoin de confirmer la présence des visiteurs, puisque vous le savez tous, après le 23 août, on a beaucoup de gens qui s'éloignent. Alors c'est un test, hein, on verra. Voilà, le projet nous a beaucoup plu parce qu'il y a une dimension aussi pédagogique. Ils vont aller jouer dans l'orchestre va aller jouer dans les écoles. L'orchestre va se rendre, donc ça va être essentiellement dans les chapelles. C'est une petite aide également et une reconnaissance accordée à toutes les associations qui travaillent beaucoup à l'entretien de ces chapelles qui coûtent parfois assez cher. Et sans ces associations, la commune aurait beaucoup de mal à les entretenir. Donc c'est aussi une mise en valeur du patrimoine religieux de la commune. Et donc, en fonction des résultats de ce premier festival, on verra bien s'il a vocation à perdurer ou pas à Carnac. Mais en tout cas, l'aspect à la fois pédagogique avec les écoles et puis l'aspect mettre en valeur la campagne, les chapelles, le patrimoine religieux, plus une petite aide indirecte aux associations qui rénovent les chapelles, je trouve que c'est une initiative à qui on méritait de donner une chance, en tout cas.
C'est à peu près ce que fait des tours d'art déjà.
Oui,
c'est possible. D'accord. Mais moi, je ne suis pas contre, ce qui m'étonne, c'est le montant. Et c'est, on n'a aucun programme, ils vont faire ceci. Quand on lit ça, l'association souhaite organiser. Alors, elle n'est pas créée, l'association, pour l'instant. Et puis, si vous voulez, vis-à-vis des gens de Carnac, on prend par exemple, moi, le bagage de Carnac. Je ne suis pas que pour la musique bretonne. La preuve, je vais à tous les concerts qu'il y a à la Trinité. Hein. Donc, je ne suis pas que pour la musique bretonne. Mais quand je sais qu'ils sont depuis 50 ans à Carnac, qu'ils ont 2000 euros par an, cette année, ils ont un peu plus, je me dis que donner à une association qu'on ne connaît pas, qui n'est pas encore créée, qui sera créée uniquement pour l'occasion, on aurait donné 2000 euros, pourquoi pas, mais 10 000 euros vis-à-vis des gens de Carnac, il y a quand même 25 personnes dans le bagage qui sont de Carnac, et qui animent quand même aussi toute l'année, je trouve que ça, moi, personnellement, ça me gêne. Voilà, c'est tout. Je ne suis pas contre. Hein.
Monique, on donne aux bagades ce qu'ils demandent, oui. Pas plus ni moins.
Oui, mais enfin,
le bagade demande 2 000 euros, on leur donne.
Mais justement, je trouve que là, c'est quand même un peu 10 000 euros à une association qui n'est même pas créée, qui sera créée uniquement pour l'occasion. On a eu le même cas sur Quiberon et ça a cassé, hein, parce qu'on ne crée pas une association uniquement pour toucher une subvention. Non. Elle existerait déjà quelque part. On a déjà les mules musicaux à Carnac, à la Trinité, et quand on voit ce qu'ils ont, les mules musicaux avec la commune, et c'est quand même aussi, c'est pareil, dans les écoles, moi j'assiste même aux séances qui ont lieu pour les écoliers, c'est bon, ils font aussi des choses très bien avec des là on va avoir, comment il s'appelle, Anne Kefelec, c'est aussi des gens de grand talent. Et quand je vois ce qu'ils donnent, eux, ben, et ça, 10 000 euros, je trouve que ce montant me semble vraiment très, très fort. Voilà, c'est tout. Je ne polémique pas. Voilà ce que je pense. Voilà, merci.
Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres, Madame Le Golvan ?
Donc, nous, on attribue donc vous demandez de faire voter une subvention de 10 000 euros. Et vous avez dit aussi que le département et la région, vous aviez fait des demandes de subvention. Quel est le budget réel ou prévisionnel ?
Alors, c'est l'association qui le porte. Hein. J'ai pas la vision totale. Je ne sais pas si Loïc a l'information. Mais aujourd'hui, effectivement, l'association n'est pas créée. Mais le but, c'est de créer... Parce qu'en fait, le but de l'opération, c'est d'avoir un festival récurrent, hein, annuel. Donc là, cette année, c'est un test. Et donc, cette association sera amenée à perdurer et à être le porteur de l'organisation de ce festival de manière annuelle. Pour ce qui concerne, je dirais, l'organisation elle-même, elle est confiée à l'association qui a son programme et son existence. Ils nous ont donné évidemment un programme de concerts et de manifestations qu'ils veulent organiser. Pour le financement, ils se débrouillent, c'est-à-dire que c'est eux qui vont chercher les subventions ailleurs. Hein. Ils ont sollicité la DRAC, ils ont sollicité la région, ils ont sollicité le ministère de la Culture, mais c'est une association qui organise beaucoup de ce type de manifestations ailleurs et donc ils sont très habitués à aller à la chasse aux subventions.
Je repose ma question. Ils vous ont présenté un prévisionnel pour pouvoir réaliser cette animation. Donc, ma question est, on nous fait voter une subvention alors qu'on ne sait, s'il leur faut, par exemple, 18 000 euros et qu'ils n'obtiennent pas des autres collectivités, enfin du département et de la région, les subventions.
Et tout à fait.
Ça veut dire qu'on vote alors bien trop tôt. Cette
vous avez tout à fait raison. Si non, mais si s'ils ne réunissent pas le financement, nous ne verserons pas cette subvention.
Non, mais je suis d'accord. Mais est-ce qu'on met pas la charrue avant les bœufs? Voilà.
Ben non, parce que pour aller chercher d'autres subventions, ils ont besoin aussi de montrer que la commune d'accueil s'engage. C'est toujours comme ça qu'on déclenche, je dirais, la chaîne des subventions. Mais aujourd'hui, si d'aventure ils ne réunissent pas les subventions qu'ils pensent obtenir à la DRAC, au ministère de la Culture et à la région, la commune de Carmac ne versera pas cette subvention, c'est clair.
Enfin, si Madame Thomas a raison, hein, je la crois d'ailleurs, vous nous présentez l'association Session Orchestra souhaite organiser alors que cette association n'est pas créée. Je suis surprise qu'on nous demande de voter ce soir en conseil une subvention à destiner à une association qui n'existe même pas. Voilà,
elle existe peut-être d'ailleurs aujourd'hui, hein, parce que elle était en cours de création.
Parce que la façon, excusez-moi, mais la façon
Madame,
dont
Madame,
c'est...
Madame Thomas, on demande la parole, s'il vous plaît, parce que c'est pas la peine d'éructer comme bon. Ça. Si tu veux parler, tu demandes.
Je ne sais pas comment se passe ce truc-là. Voilà. Non, mais si vous voulez, la façon dont l'association souhaite organiser la programmation envisagée à Carnac est ambitieuse et sera centrée. Très bien, mais c'est du futur. On ne présente pas un truc comme ça, on fait au moins un budget. Et je ne comprends même pas, même si elle n'est pas créée, jusqu'à la musique russe et américaine, et en plus, ce ne sera pas payant. Vous dites que vous aurez de l'argent, mais est-ce que les gens vont payer ?
Loïc va répondre pour ce qui concerne.
On n'en voit pas un truc comme ça dans une...
Alors, concernant l'association, l'association, en fait, Sécession Orchestra existe déjà, puisqu'il participe déjà à la création d'autres festivals. Simplement, là, il y a une entité spécifique qui se crée pour l'organisation de ce festival spécifiquement à Carnac. Pour autant, l'orchestre existe déjà et organise de nombreux...
L'orchestre, j'ai bien regardé sur Internet aussi, moi.
L'orchestre existe déjà.
Je me suis intéressé. C'est certainement quelqu'un de très, très grand talent. Mais quand même, ça coûte 10 000 euros, c'est de l'argent public, hein.
Deuxième volet concernant le budget complet, le budget prévisionnel qui nous a été présenté est de l'ordre de 40 000 euros, 39 000 et quelques. Donc la participation communale représente autour de 25%. Pour ce qui est du début de l'intervention de Madame Thomas concernant des tours d'art, il se trouve que nous avons demandé, nous Carnac, cette année, à participer à des tours d'art et que ça nous a été refusé. Voilà.
Mais forcément, parce que c'est porté par la SPL. Donc il doit y avoir quelque chose. Je ne veux pas vous dire.
Non.
Oui, mais je ne sais pas.
On est membre de la SPL.
C'est-à-dire que pour l'instant, il faudrait qu'ils engagent, parce que bon, ça couvre quand même beaucoup de chapelles, et puis c'est quand même beaucoup plus important. Il y a des jeux de pistes, enfin je ne sais pas ce qu'il y a, enfin des cachots trésors, je ne sais pas exactement, mais bon, c'est quand même à revoir, parce que là, ça fait, je trouve que.
Hein? Non, mais
parce que nous, moi aussi, j'ai regardé sur Internet, je me suis intéressé à cette... bon, en fait, c'est des intermittents du spectacle qui... C'est pas une association, c'est... Et dans cette association-là, qui sera membre? Est-ce qu'on connaît les membres de l'association? Donc, ce sera que les membres de l'orchestre qui seront dans l'association. C'est comme on a eu à Quiberon, on a refusé. C'est pareil à Acta. Parce qu'en fait, c'est des gens qui font une association pour se payer eux-mêmes, voilà. Ou avoir des ou dans le cas dans le, en l'occurrence pour avoir pouvoir toucher après les indemnités des intermittents du spectacle parce qu'il leur faut un minimum d'heures. Donc moi je veux bien qu'on le fasse, mais c'est quand même de l'argent public, 10 000 euros, hein.
Et comme toutes les associations d'intermittents du spectacle dans le domaine culturel, au Festival d'Avignon, c'est
ouais, mais enfin on n'est pas
au Festival d'Avignon. Est-ce qu'il y a d'autres, monsieur de Ripper?
Oui, concernant une question sur la période qui est retenue, la première semaine de septembre, c'est la semaine de la rentrée scolaire. Est-ce qu'on ne va pas avoir un problème de public?
Non, mais le but, c'est de
non, mais
on sait qu'on a des mois de septembre qui sont de plus en plus
importants. Je suis d'accord avec vous, c'est une bonne idée de décaler une manifestation en dehors de la saison, mais est-ce que cette semaine-là, justement, elle est réellement bien choisie? C'est-à-dire...
Oui, parce qu'on a besoin aussi que les enfants, puis comme on a une dimension d'éducation et de pédagogie auprès des écoles, on a besoin que la rentrée scolaire soit effectuée pour aller faire des prestations dans les écoles.
D'accord, on peut le faire un peu après, peut-être aussi.
D'accord avec vous. Mais enfin, ça ne s'adresse pas uniquement aux enfants.
Non, tout à fait.
Mais donc, dans les chapelles, quel public vous allez avoir dans les chapelles
composante.
La question, elle se pose.
Mais j'ai pas de réponse là-dessus. C'est encore une fois, c'est un ballon d'essai.
Oui, monsieur le maire, c'est un ballon d'essai à 10 000 euros. Hein.
Ouais. Non, puis en plus, oui, il y a les pardons. Non, si on a choisi ces dates-là, c'est que c'était les plus adéquates en termes de logistique, parce qu'on avait besoin effectivement de que les enfants soient rentrés. Il y a aussi des pardons qui venaient télescoper un peu plus tard dans le mois, et donc on s'est concerté avec l'association de saison de chapelle, hein, qui c'est pour ça qu'on a choisi ces dates.
Mais peut-être
que ce sera un flop et qu'il n'y en aura pas de deuxième événement. Mais enfin, qui ne tente rien n'a rien. Donc voilà.
Je suis d'accord avec vous pour faire un essai, mais enfin, c'est un essai, comme vous dites, un ballon d'essai à 10 000 euros quand même.
Oui, mais bon, d'un côté, si on fait, un, pas, ballon, si on fait est... un ballon d'essai à 1 000 euros,
non, mais ce que je veux dire,
soit on fait un événement majeur et qui rencontre son public, et puis on se dit ça a marché, on fait un deuxième, soit on fait un truc pas ambitieux qui n'attirera personne, et de toute façon, on se sera mort-né et on n'aura pas l'année suivante. Donc c'est aussi ce pari de faire quelque chose à la hauteur de l'attractivité et de l'ambition qu'on a pour la commune.
D'accord. Enfin, je reprends les propos de Mme Thomas. En ce qui concerne les votes de subvention, on ergote pour 250 euros. Là, on va débloquer tout d'un coup. On débloque 24 000 euros d'un coup pour Skedanos et 10 000 euros
monsieur,
pour ça.
Monsieur De Ripper, est-ce que vous êtes, j'imagine que vous êtes un amateur d'art lyrique. Est-ce que vous avez déjà entendu un orchestre de chambre de 30 musiciens jouer?
Alors écoutez, ce chef d'orchestre, il a une prédilection pour la musique contemporaine. Alors là aussi, il faut rencontrer son public.
C'est pas ce qu'ils vont jouer à Carnac.
J'ai bien lu l'ensemble de la présentation, qui a été faite. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la programmation musicale, c'est un peu flou.
Alors, la programmation musicale sera au contraire, puisqu'on a déjà parlé avec eux, une programmation extrêmement populaire, juste et a fortiori lors de la première édition, pour attirer un public le plus large possible. On ne va pas jouer Schoenberg, ce serait dans les chapelles à Carnac. C'est sûr que... Après, voilà, c'est... Moi, je pense que c'est un beau projet parce que c'est en queue de saison, c'est dans nos chapelles, les enfants y participent, il y aura un concert symphonique sur la Grande Plage. Après... Voilà, peut-être que ce sera un échec, j'en conviens, j'ai pas de certitude sur le sujet, mais simplement on s'est dit qu'on avait envie d'essayer d'avoir un événement majeur en matière de musique classique, et particulièrement avec quelque chose qui implique à la fois les habitants, les enfants et puis les chapelles.
Pardon, mais ce sera payant dans les chapelles si vous pensez avoir de l'argent, donc ce sera payant. Chapeau, vous croyez que j'en mette beaucoup Bon, bah, bref, on essaye. Mais qui c'est qui va payer le buffet aussi? Tout ça, c'est compris dedans? C'est eux?
Nous, on fait juste une subvention et après, d'accord, ils se débrouillent.
D'accord, merci.
Bon, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes? Éteignez les micros, s'il vous plaît. Non, parce que sinon, ça. Interférence. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Est-ce qu'il y a des votes pour? Je vous remercie, le rapport est adopté. Monsieur Lejean, rapport numéro 9, participation communale 2007, aussi vu, centre de secours.
Donc, comme tous les ans, il faut participer à l'aide aussi vue pour le centre de secours. Vous avez le petit tableau, le détail avec la répartition des différentes communes. Je vous rappelle que le CIVU de Carnac représente sur 5 communes, qui va de Locmaricaire à Plornel. Que Carnac contribue à la hauteur de 46,97%, que nous avons une augmentation cette année de 4 800 euros, 700 et des brouettes pour être clair, puisqu'il y a une évolution de 10 000 euros sur l'ensemble du budget du CIVU. Avez-vous des questions?
C'est un Marocain, tous les ans. Pas de questions? Pas de vote contre? Pas d'abstention? Unanimité. Je vous remercie. On passe au rapport numéro 10. Alors, c'est un vieux dossier hein, que vous connaissez tous autour de cette table. Le dossier ATIS, hein, qui est né de l'interruption du service qui avait été délégué par la commune en 2011, donc à l'association ATIS. Et la commune a été poursuivie par deux salariés de cette structure, a poursuivi leur employeur, qui était la communauté de communes à l'époque, hein, qui n'était pas uniquement la commune de Carnac. Et donc, ils ont, au fil des différentes instances, on a vu cet employeur, à savoir la communauté de communes des Mégalithes, être condamné par la cour d'appel d'Arène le 31 mars 2007 à 2017, pardon, un certain nombre d'indemnités à verser à ces deux personnes, selon une clé de répartition que vous trouvez dans le rapport, hein, à savoir la commune de Carnac 28,94%, la commune de Plouarnel 15,97%, la commune de la Trinité-sur-Mer 7,69%, la communauté de communes Auray-Quiberon-Terre-Atlantique 47,40%. Et donc ce rapport vous demande de désigner la commune de Carnac en tant que collectivité pilote pour le versement des indemnités, c'est-à-dire que nous allons verser les indemnités et nous allons émettre à l'encontre des trois collectivités susmentionnées les titres de recettes correspondants. Évidemment, comme vous l'avez deviné, les 15,97% de cette somme à la Trinité-sur-Mer, les 7,69% à la Trinité-sur-Mer, et 15,97% à la Plouarnel, et les 47,40% à la communauté de communes qui aurait Quiberon Terre-Atlantique. Je pense que c'est la fin d'un... définitive d'un litige, c'est toujours dommage de perdre, mais bon, voilà, c'est une décision de justice sur laquelle on ne peut rien. Est-ce qu'il y a des commentaires? Pas de vote contre? Pas d'abstention? Je vous remercie. Unanimité. Madame Moreau, rapport numéro 11 sur la taxe de séjour 2018.
Donc le tarif de la taxe de séjour est arrêté par délibération du conseil municipal avant le 1er octobre pour être applicable l'année suivante. Donc cette année, on va délibérer plus tôt que d'habitude pour permettre aux professionnels d'avoir les montants de taxes de séjour plus tôt dans l'année et pouvoir communiquer auprès de leurs partenaires. Donc la taxe de séjour à Carnac est au réel, au régime du réel. Elle se fait du 1er janvier au 31 décembre. Et concernant les tarifs, cette année, donc on vous propose de garder les mêmes tarifs, si ce n'est pour les hôtels de tourisme une étoile, les résidences de tourisme, les meublés de tourisme une étoile, de passer donc de 0,75 à 0,80, donc une augmentation de 0,05. Pour les hôtels et résidences de tourisme et villages de vacances en attente de classement, pour les meublés et hébergements assimilés en attente de classement, et pour les terrains de camping 3 et 4 et 5 étoiles, passer également de 0,75 à 0,80.
Il y a des questions sur ce rapport. Monsieur de Ripper.
Oui, donc on est au plafond sur pratiquement toutes les catégories, sauf deux. Pourquoi est-ce qu'on ne passe pas les deux catégories au plafond aussi? Celles qui manquent, c'est-à-dire les hôtels de tourisme 4 étoiles et les hôtels de tourisme 3 étoiles.
Parce qu'on considère que la participation des hôtels de tourisme 3 étoiles et 4 étoiles est très importante sur notre taxe de séjour quand on a l'ensemble des taxes de séjour, et donc ils contribuent déjà beaucoup, compte tenu du nombre de chambres et de leur activité annuelle, à la taxe de séjour carnacoise. Donc oui, il nous semblait que la taxe de séjour à ce niveau était suffisant. On n'a pas eu l'intention d'y toucher.
Madame Moreau, ce ne sont pas les hôtels qui payent la taxe de séjour, ce sont les clients des hôtels.
Oui, tout à fait.
Donc en fait, on ne taxe pas les hôtels, on taxe uniquement les clients.
Oui. Si vous
voulez. Donc pourquoi ne pas être au plafond dans la mesure où la taxe de séjour à l'heure actuelle, elle rapporte à peu près 550 000 euros. L'office de tourisme, il coûte un peu plus de 600 000. Tout ce qui peut faire un équilibre entre le coût et le rapport, pour moi, c'est aller dans le bon sens.
Oui, sauf que dans la politique tarifaire, il y a un moment où quand vous dépassez un certain niveau, ben, vous tirez trop sur l'élastique et finalement, vous n'avez pas d'augmentation réelle au global de taxe de séjour parce que, ben, à un moment donné, vous êtes au-dessus de ce que la prestation peut permettre. Donc, voilà.
Je ne sais pas si cet argument peut tenir parce que là, en l'occurrence, je ne pense pas que pour un euro de plus, les clients vont abandonner les hôtels.
En tout cas, ce n'est pas un choix de partir au plafond sur ces catégories-là.
Non, de toute façon, si effectivement ce ne sont pas les hôtels ou du moins leur compte d'exploitation qui est impacté, c'est toujours une fiscalité supplémentaire pour les visiteurs, puisque c'est eux qui payent. Donc, de toute façon, effectivement, dans un sens ou dans un autre, l'impact financier ne serait pas gigantesque. C'est une question qu'on se repose tous les ans. Il se trouve qu'on a, comparativement à d'autres stations, y compris celles du territoire, une plutôt très très bonne collecte de la taxe de séjour. C'est une question qu'on pourra se poser dans l'avenir, mais pour l'instant, effectivement, je crois qu'il faut rester dans un contexte, y compris sur nos visiteurs, de stabilité de la pression fiscale.
J'aimerais faire une remarque. Je suis surprise que vous vous intéressiez à la fiscalité envers les touristes, en tout cas ceux qui viennent à Carnac. Par contre, pour nous, Carnacois, quand il a fallu, dès votre élection, mettre 10% de plus, ça ne vous a pas du tout inquiété.
La fiscalité sur des touristes carnacois est modifiée, contrairement à ce que vous pensez. Je vous donne un exemple, le stationnement payant, c'est essentiellement les visiteurs de la commune qui le payent, pas les carnacois, parce que les carnacois savent très bien que... Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous garer dans un stationnement payant, monsieur le Ripper, à Carnac? C'est pas très mal, hein, alors, parce qu'il vous suffit de faire 200 mètres quand on est carnacois et on peut trouver une place de parking non payante. C'est un peu étonnant pour quelqu'un qui maîtrise bien les dépenses.
Moi, je veux juste rappeler que la commentation... Excusez-moi.
Ah, vas-y.
Non.
Oui, mais justement, j'allais faire cette remarque concernant le stationnement payant. Dans ce cas-là, je ne comprends pas, parce que j'ai oublié tout à l'heure d'intervenir dans les décisions du maire. Pourquoi faire payer les riverains pour à moitié prix pour leur place de parking devant chez eux? Là, je trouve que c'est... Pardon ? C'est pas leur place, mais enfin, ils habitent là. Ça paraît logique de pouvoir stationner devant son domicile. Ça pourrait être gratuit quand même.
Vous savez, Madame Bayard, c'est juste une question d'habitude. À Carnac, on peut trouver une place de stationnement très très proche de son domicile où qu'on habite et qui est non payant quasiment toute l'année. Et donc, pour les gens, effectivement, qui, dans certains cas, sont âgés ou qui ont besoin de stationner quelques temps pour débarrasser des affaires, on a ce dispositif. Mais globalement, on a 82% des... Comparé à Quiberon, par exemple, Carnac a 82% des places de stationnement globales qui sont gratuites toute l'année. Il n'y a vraiment que dans des secteurs commerciaux où on a besoin de la rotation que les places sont payantes, parce qu'il n'y a rien de pire pour une zone commerciale que des voitures ventouses qui restent toute la journée au même endroit. Et d'ailleurs, à Carnac-Plage, on a eu quelques protestations au départ, et en fait, maintenant, les commerçants se rendent compte que cette rotation, elle est plutôt bénéfique aux zones commerciales. On ne compte pas l'étendre, mais c'est vrai que c'est aussi une recette fiscale, je dirais, non négligeable pour la commune, qui est payée par les visiteurs, les résidents secondaires, et il n'est pas tout à fait anormal quand un visiteur de Pontivy vient passer la journée du dimanche à Carnac, qui bénéficie de nos infrastructures, de la plage, de sa propreté, de la sécurité, eh bien, qui participe indirectement à ce financement, sachant qu'encore une fois, les Carnacois, enfin, vraiment, s'ils veulent ne pas payer le stationnement à Carnac, c'est très facile. Il y a 82% des places qui sont gratuites toute l'année, et ce taux ne changera pas dans un avenir proche.
Oui, mais enfin, quand même, je trouve un peu mesquin quand même. Bon, on peut venir avec sa carte grise, justificatif de domicile. Bon, je pense que les gens qui font ce déplacement à la mairie pourraient avoir une place non payante.
C'est absurde.
Je trouve ça.
C'est...
Micro, monsieur Odo, et on demande la parole.
Je demande la parole, monsieur le maire.
Oui, monsieur Odo, vous pouvez vous exprimer.
C'est noté, monsieur de Ripper. On a plein d'exemples sur Carnac. Moi, le long de l'école, moi, j'ai vu des voitures qui restent une semaine, 15 jours sans bouger. Et c'est gratuit. Et moi, je ne peux pas déposer mes gamins le matin. Le midi, je peux venir les chercher. Je pense qu'à partir du moment où c'est gratuit, les gens restent sur les places.
Non, puis même si c'est une bonne idée, Marie-France, il y a la réalité, il y a le concept. S'il y a des places gratuites aux riverains, on va avoir, tu imagines bien combien de demandes on va avoir. Et donc, ça va être complètement ingérable. Donc, ce qu'on préfère, c'est simplement mettre du payant dans l'ultra-centre urbain, là où il y a des commerces, pour générer la rotation, et le reste a vocation à être gratuit. Bon, on s'est un peu éloigné du sujet. Sur la taxe de séjour, est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Parfait. Le reste est pour, j'imagine. Merci beaucoup. On passe au rapport suivant. La mise en place d'une procédure de vente aux enchères de matériel et objets réformés. Monsieur Lejean.
Oui.
Qui, lui, n'est pas encore réformé, monsieur Lejean.
Non. Tout à fait. Merci, monsieur Odo. Donc, c'est, en fin de compte, de mettre en place, d'adhérer au site de Web Enchères, donc pour un coût de 700 € hors taxe, pour tout simplement mettre le matériel qui est renouvelé, soit CTM ou soit du matériel administratif, pour tout simplement le céder. Il est prévu donc dans le compte rendu que vous avez, il est prévu un droit d'usage de 10% qui n'existe plus. C'est une coquille. Donc il n'y a que l'adhésion directement au site de Web Enchères.
Et on ne peut plus les 10%?
Non.
Ah ben c'est bien.
Voilà. Il y a une coquille. Fais des bêtises. J'ai fait une bêtise.
Est-ce qu'il y a
Il y a des questions sur ce... Donc ça va permettre, si j'ai bien compris, de vendre un certain nombre de matériels.
Donc on a fait un planning pour renouveler le matériel avec des services techniques ou ainsi de suite, en mettant une durée de vie, une sorte d'amortissement si vous préférez, et pour éviter que d'arriver à un matériel qui est en bout de course et qui soit renouvelé avant qu'il n'ait plus de valeur marchande, et surtout d'éviter de retrouver des années avec beaucoup de matériel à renouveler, de lisser sur l'ensemble des années. Donc il y a eu un petit travail qui a été fait avec, entre autres, les services techniques municipaux. On a listé tout le matériel qui va effectivement du très gros matériel au petit matériel et avec une durée de vie pour pouvoir systématiquement les mettre, les remplacer et donc mettre le matériel d'occasion sur le site de Web Enchères.
Avec... Vous avez déjà, il y a déjà du matériel obsolète qui... vous avez fait un inventaire
Non, le matériel obsolète, il n'y en a plus. Il y a, aujourd'hui, c'est évité, mais pas bien entendu, M. de Ripper.
Ah, ben, je ne vous ai pas bien écouté, excusez-moi.
Bon, je vais prendre un exemple, ça va être plus concret. On a remplacé un tracteur. Celui qui était là, il avait plus de 30 ans. On l'a peut-être amené trop loin. Résultat des courses, juste avant qu'on le remplace, la boîte de vitesse a cassé. Donc on a eu une reprise peanuts. Et je pense qu'on aurait géré ça plus intelligemment, on aurait pu en tirer un peu plus. Voilà, c'est un exemple concret. Et le but, c'est d'éviter surtout de retrouver, par exemple, au CTM, d'avoir une demande d'une année avec un tracteur, un camion, enfin du gros matériel en même temps, et l'année d'après, d'avoir que du petit matériel et de se retrouver avec des demandes ou des investissements importants. Là, le but, c'était de reprendre tout l'historique du matériel, de leur donner une vie, de le remplacer et d'essayer de lisser ça sur un, d'avoir à peu près une somme qui soit quasiment identique tous les ans. Ce qu'on appellerait, ou si vous préférez, une sorte de PPI, voilà, pour voir clair tous les ans, et derrière d'avoir listé. Et donc l'objectif est de vendre le matériel qu'on remplace sur Web Enchères pour en tirer un certain montant. Je me suis donné un petit objectif en interne que je garderai en interne. Je vais d'abord essayer de le réaliser avant de vous le dire. Je ne suis peut-être pas sûr de le réaliser.
Ça va être géré comment ?
Pardon ?
Je veux dire, les mises en vente sur le site, aux enchères, ça va être géré donc, de quelle manière ?
Donc, on adhère au site et derrière, une fois qu'on a un matériel à mettre, on le met sur le site. Il y a une durée de validité.
Je veux dire, il y a une personne dédiée. Comment ça
oui, bah, alors, bah, pour tout dépend le matériel. Si on prend du matériel du CTM, ça sera effectivement soit à Neuzem ou soit à M. Jarry qui s'en occuperont. Voilà, un petit peu.
Et c'est ouvert, la plateforme est ouverte aux particuliers ou c'est entre collectivités ?
Ah non, c'est ouvert en particulier à tout le monde.
Donc je pourrais acheter un tracteur communal, par exemple ?
Tout à fait.
Oui, mais il faudra d'abord que vous inscriviez sur le site.
D'accord.
Mais la commune.
Et mon jardin est trop petit, j'ai pas besoin de tracteur. C'était une vue de l'esprit. Oui. En décoration.
Pour information, vous pouvez demander, il y a Auré qui a déjà adhéré depuis plus d'une année à ce site.
Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce magnifique web plateforme sur lequel tout le monde va pouvoir acheter bientôt un tracteur ou une tronçonneuse ?
Non, mais comme disait Monique, Auré a vendu effectivement quand ils ont renouvelé tous les fauteuils d'Athéna, ils en ont vendu sur le site de Web Enchères.
Ils ont bien vendu. Hein.
Comme exemple.
Est-ce qu'il y a des votes contre cette web plateforme ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Unanimité, je vous remercie. Rapport numéro 13, toujours Monsieur Lejean, extinction de créance.
Donc c'est tout
simple. Douloureux.
Tout à fait, c'est pour une extinction de créance par une personne qui effectivement ne peut pas honorer pour la hauteur de 89,10 € et non 80,19 € que j'avais dit en commission finance.
Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions ? Unanimité, je vous remercie. On passe au rapport 14, la concession des plages. Donc, dans ce rapport, nous allons vous demander de vous prononcer sur l'exercice du droit de priorité de la commune pour la gestion des plages de la commune. Vous savez que, ou vous ne savez pas que la DDTM, enfin les affaires maritimes, pardon, se désengagent de la gestion du domaine public maritime et que nous avons donc été sollicités par les affaires maritimes pour savoir si la commune entendait reprendre la gestion de ce domaine. Sachant que si la commune ne se portait pas acquéreur de cette concession, eh bien, comme c'est le cas dans d'autres communes, les affaires maritimes pourraient la céder à un acteur privé, ce qui est évidemment hors de question. Et donc, pour cette raison, Nous vous demandons d'autoriser le maire à entamer les démarches nécessaires afin d'élaborer le dossier de reprise de la concession des plages et notamment de se faire assister là aussi par un cabinet d'études. C'est éminemment complexe, particulièrement à Carnac, où on a une découpe entre le domaine public maritime et le domaine public communal qui est non seulement extrêmement compliqué, mais qui est également à certains endroits, on a même quelques doutes entre le domaine départemental, entre le domaine communal, entre le domaine public. Et donc, c'est une manière d'empêcher que la gestion des plages parte dans le privé. Hein. Je ne veux pas qu'on se retrouve dans une situation à la Baule où il y ait un opérateur comme Veolia qui serait amené à gérer nos plages. Donc, il faut absolument que ça reste communal. S'ils étaient restés étatiques, ça ne m'aurait pas gêné, mais pour l'instant, compte tenu du fait que la DDTM et les affaires maritimes se désengagent, on préfère que ça reste communal. Voilà.
Concernant la Baule, c'est la mairie hein, qui a dédié, qui a fait une DSP, donc il ne faut pas dire que vous n'avez pas envie que ça soit comme la Baule. Vous pourrez faire comme la Baule, vous aurez tous les droits. Il faut quand même régler...
On pourra évidemment faire comme la Baule, mais en la circonstance, je n'évoquais pas le fait qu'on ne pourra pas redéléguer cette gestion, j'évoquais simplement le fait que, comme à la Baule, je ne souhaite pas qu'un opérateur privé devienne le gestionnaire du domaine public maritime, du domaine public maritime à Carnac. Je souhaite que ce soit la commune et à l'avenir, à titre personnel, je ne souhaite pas qu'on la cède à un opérateur privé. Monsieur Deripa.
Toutes les plages de la commune sont concernées et on a une idée du linéaire.
Oh, c'est assez important, Monsieur Lejean.
Vous m'avez posé, pardon, la question a déjà été posée en commission finance. Aujourd'hui, nous sommes au début de l'étude, déjà pour définir effectivement où démarre la plage, où s'arrête la plage, parce qu'à chaque fois, on a des relais, si je prends entre Saint-Colomban, entre Tibillon et ainsi de suite. Donc, il faut déjà déterminer ça. On est dans la première phase, effectivement, des entretiens avec la DTM pour définir tout ça. On a d'autres exemples. Hein. On a un exemple, on a les toilettes publiques de la Pointe-sur-Chine qui, apparemment, aujourd'hui, sont sur le domaine public maritime. C'est les seuls. Pourquoi ? Pour qui ? On ne sait pas. Donc, on a des petites choses comme ça à voir, à éclaircir avec les affaires maritimes. Et les premières réunions vont avoir lieu, effectivement, pour éclaircir tout ce genre de choses. Et après, effectivement, on verra bien le nombre de mètres linéaires et de mètres carrés qu'il y a. Je vous rappelle que les communes sont limitées derrière pour l'occuper à la hauteur de 20%. Mais pour l'instant, je ne peux pas vous donner précisément. De toute façon, une chose est sûre, on n'utilisera jamais 20%.
Pas d'autres questions ? Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Unanimité, je vous remercie. On passe maintenant au rapport numéro 15. Monsieur Loïc Oudois.
Alors, il s'agit d'autoriser la prise en charge de frais scolaires pour deux enfants carnacois scolarisés dans une commune extérieure parce qu'ils nécessitent une scolarité adaptée. Leur prise en charge sera à hauteur de 424,34 € pour un élève scolarisé en classe élémentaire et 408,16 € pour un enfant scolarisé en classe maternelle, étant entendu que ces participations ne pourront pas excéder les montants demandés par les communes d'accueil.
Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport ? Monsieur Doripa ?
Oui, une simple précision. Au dernier conseil municipal, vous nous avez indiqué le coût moyen d'un élève scolarisé en classe élémentaire et vous nous avez indiqué 579,89 €. Et là, vous nous donnez 424,34 €. C'est la différence entre les deux, c'est quoi ?
C'est-à-dire que pour les classes élémentaires, on ne prend pas en compte les dépenses de personnel.
Oui, mais les dépenses de personnel dans les classes élémentaires, enfin, dans les classes maternelles, okay, il y a les ATSEM qui sont pris en compte. Donc, en effet, on a un coût qui est très élevé, qui est de 1841 €. Donc là, on le réduit. Mais en ce qui concerne les classes élémentaires, quel est le personnel qui est pris en compte ?
En fait, il y a aussi
des différences liées au... Pourquoi est-ce qu'on n'a pas exactement les mêmes chiffres entre deux conseils municipaux ? On a deux chiffres qui diffèrent.
Non, normalement, on vote en conseil municipal deux tarifs différents. Et c'est le deuxième qui est appliqué ici. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est valable sur Carnac. Et il y en a un autre qui est valable pour les communes extérieures, dans lequel on ne prend pas, par exemple, l'ensemble des fournitures scolaires, mais on prend, par exemple, les sorties scolaires.
Et on ne prend pas exactement la même moyenne quand il s'agit de Saint-Michel ou quand il s'agit d'une,
d'une école extérieure.
C'est non, le mode de calcul, ce n'est pas nous qui
le
déterminons.
Le mode
en fait,
de calcul n'est pas le même, c'est ça?
Non, mais ce n'est pas nous qui le choisissons, en fait.
Ce sont des enfants qui ne peuvent pas être entre l'arrivée normale.
Oui, c'est des enfants, en fait, qui doivent être pris en charge dans ce qu'on appelle des unités localisées pour l'inclusion scolaire. C'est anciennement CLIS, ce qu'on appelle ULIS maintenant. Et voilà, ça fait partie des cadres obligatoires de prise en charge par les communes de résidence.
Il n'y a pas d'autres questions? On peut passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Monsieur Servet, rapport numéro 16, effacement des réseaux électriques de télécommunications et d'éclairage public, boulevard de la Plage.
Considérant les travaux d'aménagement du boulevard de la Plage qui sont actuellement en cours d'étude, il est nécessaire d'enfouir les réseaux aériens sur le secteur. Et à cet effet, la commune a sollicité Morbihan Énergie pour l'effacement des divers réseaux électriques, téléphoniques et rénovation du réseau d'éclairage public. Le dossier est passé avec avis favorable en commission travaux, environnement, propreté, sécurité du 31 mai. Donc, vu l'estimation prévisionnelle et susceptible de réajustement en fonction des coûts définitifs, puisqu'il s'agit aujourd'hui de coûts prévisionnels, il est proposé au conseil municipal d'approuver ces conventions passées avec Morbihan Énergie pour la réalisation et financement des travaux d'effacement des réseaux téléphoniques électriques et rénovation du réseau d'éclairage public, boulevard de la Plage. Autoriser le maire et l'adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à ce dossier et s'engager à inscrire les crédits nécessaires au budget de la commune.
Merci, monsieur Servet. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions particulières? Il n'y a pas de vote contre, j'imagine? Pas d'abstention non plus? Unanimité, je vous remercie. Monsieur Durand, rapport 17, approbation du lancement du projet d'effacement des réseaux, avenue de la Pointe cette fois-ci.
Réseau, on aurait pu demander d'ailleurs qu'ils prennent la décision d'avant à son compte. Bon, ça ne se fait pas? Non. Donc là, c'est un particulier, comment? Oui. C'est un particulier qui veut enlever un poteau électrique qui est juste devant sa maison. Donc il prendrait à charge tous les travaux.
Tu
il y en a à peu près, il me semble, pour 5 000 et quelques, je crois.
Vous féliciterez ce particulier de la part du maire?
5 000 et quelques.
Très bien.
Oui. Il aurait pu prendre justement le...
Oui, il aurait pu prendre toute la rue.
Oui.
Ça aurait été sympa. Pas de remarques, pas de vote contre, pas d'abstention, unanimité, je vous remercie. Monsieur Servet, effacement des réseaux électriques, télécommunications et d'éclairage public, cette fois-ci, avenue Kermario.
Oui, tout à fait. Dans le cadre d'un projet de réaménagement de l'avenue de Kermario, il est nécessaire d'enfouir les réseaux aériens sur le secteur restant. La commune sollicite à cet effet, Morbihan Énergie toujours, pour l'effacement de ces réseaux électriques, téléphoniques et rénovation du réseau d'éclairage public. Au vu des montants coûts estimés de 498 848 euros hors taxes, la part communale serait de 275 706 euros hors taxes. Il est proposé, donc, ayant reçu l'avis favorable de la commission du 21 mars 2017, il est proposé donc au conseil municipal d'approuver ces conventions à passer avec Morbihan Énergie, d'autoriser le maire et l'adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives au dossier et de s'engager à inscrire les crédits nécessaires au budget de la commune.
Je vous remercie, monsieur Servet. Pas de remarques, j'imagine? Pas de vote contre? Pas d'abstention? Unanimité, je vous remercie. On passe très rapidement. Rapport numéro 19. Vous savez que la loi NOTRe a transféré la compétence du transport routier du département vers la région. Nous avions deux abribus propriété du département qui ne peuvent donc plus être entretenus par le département qui n'a pas, contrairement à la commune, la compétence générale. Et donc, au terme de ce rapport, nous vous proposons d'accepter le transfert de propriété à titre gratuit des abribus départementaux qui sont donc situés à rue de Poulperçon et à l'office du Souris de la des Druides, et donc de m'autoriser ou l'adjoint délégué à signer l'acte ou tout document relatif à ce dossier. J'imagine que personne ne s'oppose à ce que nous récupérions pour une somme symbolique de très beaux abribus. Dans le patrimoine communal, nous sommes riches. Et ben, il n'est probablement pas propriété du conseil départemental. C'est même sûr. Sinon, il serait dans la liste. Ben oui, évidemment. Qu'est-ce que je veux dire? Pas de vote contre, pas d'abstention, unanimité. Je vous remercie pour les abribus. Déclassement de voirie, rue des Domaines des Tadornes. Monsieur Durand, c'est un dossier qu'on avait déjà vu en conseil municipal, hein?
Oui, tout à fait. C'est pour déclasser donc la voirie à 70
mètres carrés. Micro, d'accord. Ok. Oui, c'était une petite.
Voilà, 79 mètres carrés, de façon à le passer dans le domaine privé de la commune, de façon à pouvoir le vendre au domaine d'État d'Orme.
Pas de remarques sur ce dossier qui a déjà été examiné. Pas de vote contre, pas d'abstention. Je vous remercie, unanimité. Monsieur Servet, travaux de construction d'un restaurant scolaire. Donc il s'agit là d'autoriser, enfin, je peux même le faire, d'autoriser. Le maire a déposé le permis de construire qui sera instruit évidemment par les commissions compétentes au moment où le projet aura été dessiné.
Tout à fait.
J'ai pris. Oui, désolé. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce dossier, monsieur Deripa?
Oui, une remarque. On a déjà dit que l'investissement d'1,150 million qui était prévu pour produire une centaine de repas par jour nous paraissait totalement disproportionné. Donc nous sommes contre ce permis de construire.
Parfait. On peut passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre, donc? Est-ce qu'il y a des abstentions? Est-ce qu'il le reste, c'est des votes pour? Je vous remercie. Le rapport est donc adopté. Monsieur Durand, travaux de création d'un pré au couvert à l'école maternelle des Corrigans. Il s'agit également d'un permis de construire.
Autorisé de déposer un permis de construire pour le préau à l'école maternelle. Petite précision, il y a pour 15 000 euros à peu près d'estimatif, 60 mètres carrés, 10 mètres par 6.
Parfait. Personne ne s'oppose au préau? Unanimité? Je vous remercie. Monsieur Durand, toujours, rapport 23, travaux de changement de menuiserie au presbytère.
Là, c'est changement de menuiserie donc au presbytère. Il y en a pour 30 000 euros. Attention, c'est 30 000 euros en 2017, mais il y aura 30 000 euros en 2018, me semble-t-il.
Oui, je pourrais avoir voilà. Pour être passé effectivement au presbytère récemment, c'est un vrai courant d'air. Est-ce qu'il y a des remarques? Pas de remarques? Unanimité? Je vous remercie. Monsieur Lejean, travaux d'aménagement paysager au tennis de Beaumère.
Oui, alors on est un petit peu dans la même logique que Monsieur Durand. Donc c'est d'autoriser de pouvoir faire les travaux, la dernière partie des grillages pour le tennis de Beaumère, qui était budgété dans le budget de la commune.
Des questions, des remarques? Unanimité? Je vous remercie. Cette fois-ci, on passe au tennis du Ménec, avec un autre tennisman, Monsieur Durand.
Pour la création d'une porte, une porte double en alu, d'accès extérieur du côté de l'aire de gens du voyage. C'est pour l'accessibilité de la nacelle pour l'entretien de la salle. Il y a à peu près 10 000 euros.
Pas de vote contre? Unanimité? Je vous remercie. On passe au rapport 26. Très rapidement, vous savez que très régulièrement, nous actualisons la longueur de la voirie communale, pas simplement pour le plaisir de connaître au mètre près la longueur de la voirie communale, mais parce que une partie de notre DGF est calculée sur cette longueur. Et donc, je vous demande d'approuver la dernière mise à jour de cette voirie communale. Pour ceux qui sont férus et friands de statistiques, nous avons donc 73,372 km de voie communale hors agglomération. Nous avons 17,349 km de voie communale en agglomération. Et nous avons 5,215 km de places et de placettes communales pour un total de 95 quasiment kilomètres, puisque c'est 94 936. Vous approuvez à l'unanimité? De toute façon, s'il y en a qui est contre, il faudra qu'il m'explique pourquoi. Ou alors qu'il aille recompter lui-même, et je lui souhaite bon courage. Rapport numéro 27, travaux divers de voirie hors agglomération, demande de subvention, monsieur Lejean.
Donc le but c'est de faire une demande de subvention dans le cadre du PDIC, pour bénéficier de subventions suite aux travaux qui peuvent être faits sur les voies communales hors agglomération, donc sur les 72,372 km, donc Lucuni, Coëtatus, Kergarec, ainsi de suite.
Une demande de subvention, en général, tout le monde est pour, même à Carnac, unanimité, je vous remercie. Rapport numéro 28, adoption du schéma directeur et du zonage d'assainissement des eaux pluviales et enquête publique. Monsieur Durand.
Alors, c'est un schéma directeur de façon à établir un plan de zonage d'assainissement des eaux pluviales actualisées. Schéma directeur et plan de zonage des eaux pluviales Et l'enquête publique, elle va démarrer du 3 juillet jusqu'au 4 août. Les panneaux d'affichage sont déjà posés, d'ailleurs.
Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Unanimité? Je vous remercie. Alors, on passe. RIFSEP, épisode 2. Bienvenue dans l'usine à gaz. Nous avons donc voté lors du conseil municipal du 24 mars 2017, par la délibération 59, donc l'indemnité de fonction, de sujétion et d'expertise liée aux fonctions exercées par l'agent dans la collectivité territoriale. Je vous rappelle que c'était une réforme votée par le gouvernement qui a précédé celui de M. Macron et qui est donc entrée en vigueur. Et nous n'avions pas, dans la mesure où cette disposition était énoncée comme facultative, nous n'avions pas mis en vigueur le complément indemnitaire annuel, ou CIA, et non pas Central Intelligence Agency, puisque les dispositions de la préfecture nous spécifiaient que cette disposition était facultative. Nous avons reçu une instruction de la préfecture. Madame Michard, à quelle date ? Après la délibération, nous signifions que même si nous ne voulions pas, ce que nous ne ferons pas d'ailleurs, bénéficier de ce dispositif de complément indemnitaire annuel, nous devions quand même le mettre en œuvre, puisque son caractère facultatif est post-mise en vigueur. Et donc, je vous demande de voter et de vous prononcer sur ce principe. Monsieur Chapelle n'étant pas là, je pense que si vous avez des questions précises, ce n'est pas moi qui répondrai à ces questions, mais il y a Philippe Charpentier qui, lui, connaît tout ça par cœur, qui peut répondre à cette disposition, encore une fois, que nous n'utiliserons pas dans la commune de Carnac, mais qui est malheureusement ou heureusement, enfin, que nous devons voter sur instruction de la préfecture.
C'est une sorte de prime annuelle de résultat, donc elle ne va pas être utilisée à Carnac ?
Elle ne va pas être utilisée à Carnac dans ce dispositif. Il y a d'autres dispositifs qui permettent de donner des primes, mais pas celui-là.
Parce qu'on peut, utiliser un dispositif autre que celui qui est prévu par la loi ?
Non, dans l'autre dispositif que nous avons mis en vigueur. Pourquoi vous avez toujours cherché...
Non, mais je vous pose la question. Je vous pose la question.
Monsieur de Ripper, vous croyez...
Je pose la question.
Monsieur de Ripper, vous croyez que j'allais violer la loi ?
Pas du tout. Je vous demande quel dispositif on va utiliser. Je comprends pas pourquoi.
Eh bien, le premier dispositif que nous avons mis, le RIFSEP, qui permet ce genre de choses.
Et on peut utiliser un autre dispositif que celui-là ?
Bien sûr. On peut utiliser d'autres dispositifs.
C'est ma question était toute
simple.
Voilà,
mais votre question c'était pas du tout, on va pas du tout. La loi
Attendez.
Pour
Monsieur le maire, s'il vous plaît, vous pouvez m'écouter 30 secondes.
Oui,
on a deux pages de délibération là. On a deux pages de délibération. Bon, on regarde ce qu'il y a dans les pages, tout ça pour que vous nous disiez de toute façon, on va pas l'utiliser. Donc en effet, ça pose question quand même.
Voilà, c'est simple. On peut passer au vote ? Est-ce qu'il y a des votes contre ?
Si ça sert à rien, qu'ils voulaient qu'on réponde.
Mais parce que c'est le préfet qui nous le demande. Je viens de vous l'expliquer, monsieur de Ripper. Soit vous écoutez pas, soit vous êtes d'une absolue mauvaise foi. Moi, je ne voulais pas spécialement avoir ce rapport aujourd'hui au conseil municipal. On a reçu une instruction de la préfecture nous disant que, malgré le caractère facultatif énoncé dans la première disposition, il fallait le mettre en œuvre, quand bien même la commune ne l'utiliserait pas. Je réponds à une instruction de la préfecture. C'est pas compliqué à comprendre. Si ?
Non, allez-y, continuez.
Ok. Moi, j'avais quand même une question, parce que je pensais que ça allait être mis en place, hein, vu les deux, trois pages qu'il y avait à dire. Les montants qui ont été, montants annuels, maximum, CIA, là, ça a été voté par le CTP ou ça a été décidé où ? D'accord.
Donc, on a ni plus ni moins appliqué le pourcentage de la circulaire. Si vous vous souvenez, la dernière catégorie 3D de mémoire, c'est 300 euros. Et les PSE, au mois de mars, je crois qu'on a eu 2% en catégorie C.
Je trouvais que ça faisait un gros différentiel entre un catégorie A, donc. Direction d'une collectivité et en effet un agent. C'est un rapport. C'est pas appliqué cette année, mais bon, ça peut être appliqué puisqu'on le vote.
Ça peut être appliqué pour une autre municipalité qui aura d'autres politiques de ressources humaines.
Hein, voilà.
Mais comme c'était, c'est exactement pour ça qu'on ne l'a pas voté d'ailleurs, puisqu'il était facultatif, donc comme on ne souhaitait pas l'utiliser, on ne l'a pas voté. Sauf que la préfecture nous dit, même si vous ne l'utilisez pas, et même si son caractère est facultatif, il faut le faire entrer en vigueur et procéder à un vote au sein du conseil municipal. C'est aussi simple que ça. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Unanimité, je vous remercie. Rapport numéro 30, donc il s'agit de la prolongation d'un contrat d'accompagnement pour l'emploi d'une durée d'un an. Cet emploi est déjà existant, puisque c'est un agent qui est venu renforcer les effectifs du service urbanisme, qui est particulièrement sollicité depuis l'entrée en vigueur de notre PLU. Et donc nous avons décidé de le prolonger d'un an, un dispositif qui est évidemment assez avantageux pour la commune. Monsieur Dripper.
Je rappelle quand même qu'il existe au sein d'ACTA un service qui instruit toutes les autorisations d'urbanisme pour l'ensemble des communes, pour les 24 communes d'ACTA, sauf pour Auray et pour Carnac. C'est un service qui est à la carte, c'est-à-dire qu'on peut lui faire instruire, non pas l'ensemble des autorisations d'urbanisme, on peut lui faire instruire les dossiers, certains dossiers, et on peut choisir les dossiers qu'on lui fait inscrire. Pourquoi est-ce qu'on ne choisit pas cette solution, ce qui permettrait d'aller dans le sens de la mutualisation, plutôt que d'embaucher une personne supplémentaire au service urbanisme ?
Parce que nous, ce n'est pas le choix que nous avons fait.
La mutualisation, c'est quand même... Vous m'avez expliqué en large et en travers que vous étiez favorable à la mutualisation.
Quand vous m'aurez prouvé que la mutualisation en matière d'urbanisme fait économiser de l'argent en commune, je reconsidérerai ma position.
Je pense qu'à l'heure actuelle, parce que la première réponse que vous m'avez faite, c'est de me dire que ce service-là, pour l'instant, avait trop peu d'existence pour être compétent. Bon, maintenant, ils ont 2 ans d'existence. Je pense qu'ils ont acquis une certaine compétence.
Encore une fois, on a aussi des très bonnes compétences au sein de la commune. Et donc, on maîtrise parfaitement l'ensemble du process et les coûts. Et donc, pour l'instant, nous avons fait le choix
Je ne conteste pas les compétences qu'on a au sein de la commune. Ce que je conteste, c'est qu'on embauche une personne supplémentaire.
Non, on ne l'embauche pas, on prolonge.
Non. À la base, il a été embauché, ça a été spécifié dans le compte-rendu, il a été embauché pour remplacer quelqu'un qui était en congé maternité.
Non, pas du tout.
Il y a eu
quelqu'un qui aidait partiellement le service urbanisme, qu'on a souhaité, effectivement, post-PLU, comme il y avait une grosse charge, recruter, et donc là, on en prolonge d'un an, c'est pas un emploi qui sera ad vitam aeternam, on en a besoin. Encore une fois, on va pas faire ce débat, on l'a eu 10 fois. Aujourd'hui, nous avons choisi de garder complètement la compétence urbanisme. C'est clair ?
Bon. C'est clair pour vous, c'est clair pour moi.
Voilà. Donc, on peut passer au vote. Alors, qui est contre ? Madame Bagarre. Qui s'abstient ? Merci. Je passe au rapport suivant. C'est l'appel à projet dynamisme des bourgs ruraux et des villes en Bretagne du Conseil régional. Et donc, pour vous demander d'autoriser la commune de Carnac. Alors, cet appel à projet a été... La commune de Carnac a été approchée par la préfecture du Morbihan et notamment par le préfet lui-même qui, suite à une visite du site mégalithique, nous a fortement suggéré de candidater à cet appel d'offres parce qu'il pensait qu'à la fois l'aménagement de l'entrée du bourg, le lien entre le site mégalithique et notre bourg pouvait être considérablement amélioré, ce dont tout le monde convient. Et donc, M. Raymond Ledin nous a demandé de participer à cet appel à projet. Il a voulu pousser la commune de Carnac dans cet appel d'offres. Alors, dans cet appel à projet, je ne sais pas si nous serons retenus. Il y a évidemment beaucoup d'autres communes qui candidatent. Mais l'objectif de ce projet qui a trait donc au dynamisme des bourgs ruraux et des villes, c'est de faire travailler des cabinets, et notamment en étant fortement subventionnés, puisque une grande partie de ces revenus, voire même la totalité, sont fournis par les services de l'État sur la problématique d'entrée de bourg, d'aménagement autour du site de mégalithique et la connexion entre ce site et notre bourg. Donc, il vous est donc proposé d'autoriser le maire à répondre à cet appel à projet. Je crois que c'est le 3 juillet que nous devons remettre notre candidature. Et je pense que c'est une bonne opportunité pour la commune de faire financer des études qui serviront également dans le cadre du projet UNESCO, puisque vous savez, le plan de gestion du site sera capital dans notre capacité à obtenir le label, et que donc j'ai répondu favorablement à la demande du préfet, et nous allons donc répondre à cet appel à projet et, si possible, espérer que nous remportions, nous soyons sélectionnés parmi les 3 ou 4 communes qui seront peut-être sélectionnées sur le territoire, c'est 3, ouais, du Morbihan, pour bénéficier de ces subventions d'État. Donc voilà, voilà ce dossier. Est-ce qu'il y a des remarques ? Pas de remarques, on passe au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions ? Je vous remercie. On passe aux questions diverses ou orales. Je crois que, M. de Ripert, vous aviez quelques questions.
Merci. Je croyais avoir fait un sans faute, mais non.
Ouais. Caramba.
Lors du dernier conseil municipal, on avait, et concernant Parc Bellane et Bellevue, on avait décidé, vous aviez admis de réunir le COPIL régulièrement. Il n'a jamais été réuni.
Ici, il a été réuni.
Et avec participation de la minorité municipale.
Tout à fait. Qui n'en fait plus partie.
Qui n'en fait plus partie.
Non.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que, M. de Ripert, j'avais spécifié que ce contentieux avec EADM n'était ni le problème de cette municipalité, ni de la précédente, ni même de la précédente. Et que donc, j'avais accepté que vous participiez à ce COPIL qui porte sur des enjeux très importants, y compris financièrement pour la commune, à partir du moment où c'était une approche non partisane, polémique du sujet. J'ai constatez que dans votre petit papier bleu que vous aviez fait circuler, vous rejetiez la responsabilité de cette affaire sur la commune. Donc à partir du moment où, et à partir du jour où vous avez envie de travailler pour la commune et pas contre la municipalité, je vous inviterai, parce que je pense que vous avez encore une fois des vraies compétences à apporter à la commune, à participer à ce genre de travaux. À partir du moment où c'est simplement tendre la joue pour se prendre une baffe le lendemain, je suis un petit peu peu enclin à vous faire participer. Donc voilà, s'il n'y avait pas eu ce papier, vous seriez membre du COPIL. Et donc aujourd'hui, j'ai décidé que vous n'en êtes plus, parce que de toute façon, c'est pour simplement, dans une affaire en plus juridique avec des conséquences importantes, je n'ai pas envie de vous donner la visibilité sur ces négociations.
Donc une nouvelle instance à laquelle l'opposition ne peut pas participer.
Tout à fait.
Une nouvelle, c'est-à-dire qu'on ne peut participer dans votre schéma, on ne peut participer uniquement à ce qui est obligatoire.
Exactement.
Uniquement à ce qui est obligatoire.
Vu votre attitude,
pour le reste, aucune information, information à diffuser, et on ne participe à rien.
Vu votre attitude.
Bon, alors donc.
Monsieur de Ripert, maintenant,
je pose ma question.
J'ai commencé à vous répondre. À partir du moment où j'ai une opposition qui fournit des pièces juridiques à des gens qui attaquent la commune, à partir du moment où vous êtes incapable de travailler pour la commune.
Vous parlez de quoi, là, au
juste ? Je parle de Super U.
Et quelles pièces juridiques on a fournies ?
Des pièces que Madame Le Golvan a
Dites précisément ici.
Sa convocation au conseil municipal.
Parce que ça, c'est une pièce juridique.
Tout à fait.
Une convocation au conseil municipal, c'est une pièce juridique.
Tout à fait.
C'est une pièce qu'on fournit à bien des gens, monsieur Le Pic.
Vous l'avez fournie à monsieur Doriel.
Comme à d'autres. C'est une simple convocation.
Ah bon, vous fournissez vos convocations du conseil municipal à d'autres personnes.
Il s'est trouvé qu'il y avait une photocopie qui a été fournie d'une convocation. Oh, Je ne vois pas bien.
De plus,
cette pièce n'a jamais été... Enfin, à ma connaissance, parce que je connais bien le dossier du Super U, cette pièce, elle n'est pas utilisée.
Et pour cause.
Elle n'est pas utilisée, cette pièce. Alors, venez pas me dire que c'est une pièce juridique qui a été fournie.
On va topper le débat. Elle a été transmise. Et à partir du moment où, encore une fois, vous refusez de travailler pour l'intérêt général de la commune, mais que vous saisissez tous les sujets pour faire des sujets de polémique, y compris sur celui-là, dont j'ai dit qu'il n'était ni le problème de cette municipalité, ni de la précédente, je pourrais très bien ouvrir les livres et encore faire une polémique. Ce n'est pas mon souhait. Donc, à partir du moment où vous avez cette attitude, je ne vais pas tendre la joue droite. Voilà, c'est tout, point.
Donc,
maintenant, votre question.
Je dis bien une instance de plus à laquelle l'opposition ne peut pas participer.
Changez d'attitude et vous participerez à toutes les instances.
Donc, étant donné qu'on ne peut pas y participer, je vous demande de bien vouloir nous donner un certain nombre d'informations sur l'état des négociations avec ADM.
C'est un consensueux, nos avocats se parlent et pour l'instant, je n'ai aucune information à vous donner.
Donc, pour l'instant, on ne peut avoir aucune information sur ce dossier ?
Non. Tant qu'on est en procédure précontentieuse, non.
Parce qu'on est en procédure précontentieuse avec EADM.
Comme dans le dossier.
Attendez, je vous pose la question. Nous sommes dans une procédure précontentieuse avec EADM.
Ah bah, si on ne trouve pas un accord de sortie, on passera évidemment
donc, pour à l'instant, on n'y est pas encore.
Ah bah non, bien sûr que non.
Bon, alors, puisqu'on n'y est pas encore, donc ça, c'est pas couvert par le sceau du secret. Vous pouvez peut-être nous donner quand même quelques informations.
Non, pour l'instant, je vous dis, les avocats se parlent et moi-même, d'ailleurs, ils ont dû parler cette semaine. Je n'ai pas les dernières informations et je ne vous les donnerai pas quand je les aurai. Encore une fois, parce que je n'ai aucune confiance dans l'utilisation que vous ferez de ces informations dans un cadre contentieux qui peut effectivement avoir un impact financier important sur la commune. Je n'ai aucune confiance, donc je ne le ferai pas. C'est clair.
C'est clair.
Bah oui, c'est clair.
Moi aussi, je suis clair. Hein.
Donc oui, vous donnez.
Bon, alors donc,
vous fournissez des pièces.
Puisqu'on ne peut pas avoir
un conseiller municipal qui fournit des pièces. À quelqu'un qui poursuit.
Monsieur le maire, vous n'allez pas remettre ça.
Mais si, je vais remettre ça.
Mais non, pas du tout. Pas du tout. Précisez.
C'est un problème de confiance.
Il s'agit uniquement d'une convocation, monsieur le maire. C'est une pièce qui n'a aucune importance.
Mais bien sûr que si, puisqu'ils attaquent la légalité des délais de convocation du Conseil. Vous le savez très bien.
Mais cette convocation, elle est datée. D'accord. Mais il n'y a aucune date, ni d'envoi, ni de réception. À quoi elle sert? Strictement à rien. Strictement à rien.
Je pense qu'un conseiller municipal doit avoir en tête l'intérêt absolu de ses concitoyens et ne pas aider un particulier dans un dossier comme celui-là. Point final. Et donc, tant que ce sera le cas, tant qu'il n'y aura pas de confiance, je ne vous laisserai pas mettre le nez dans des dossiers avec des conséquences financières importantes pour la commune. Point. Changer d'attitude. Monsieur de Ripper, je vous ai déjà dit 100 fois que vous étiez un conseiller municipal remarquable, que vous connaissiez très bien vos dossiers, que vous auriez beaucoup à apporter à la commune, beaucoup. Simplement, votre attitude, depuis le début de ce mandat, c'est non pas de travailler pour la commune, c'est de travailler contre la municipalité. Donc, changer d'attitude et je serai le premier à vous permettre d'avoir accès à l'ensemble des informations. Prouvez-moi simplement que je peux vous faire confiance. Je ne peux pas vous faire confiance. Voilà.
Je n'ai pas l'intention de changer d'attitude.
Et bon. Donc, moi non plus, ça tombe bien.
Donc, je poursuis avec ma question. Étant donné que ces deux programmes apparemment sont au point mort, est-ce que vous pouvez nous donner un état d'avancement des OAP?
Monsieur Servet.
Alors, en ce qui concerne les OAP actuellement figurant au PLU, on a deux OAP sur lesquels des projets nous ont été présentés et sont fortement avancés. L'OAP numéro 10 ainsi que l'OAP numéro 11. Donc l'OAP 10, c'est la partie sud du jardin de Césarine, du parc de Césarine. L'OAP 11, pardon, c'est la partie dans l'OAP 11 qui est sur le côté est, puisqu'elle est en deux parties. Ces deux projets sont avancés. Autrement, nous avons 3-4 autres OAP sur lesquels il y a eu des contacts pour lesquels on sait qu'il y a des promoteurs qui sont intéressés et qui avancent sur les dossiers sans pour autant qu'on puisse parler d'un avancement proche d'un aboutissement. Voilà où on en est actuellement sur les OAP.
En ce qui concerne la 10 et la 11,
oui,
ça risque de se réaliser sous quel délai?
Il est vraisemblable qu'il y ait des dépôts de permis de construire sous quelques semaines à deux mois, on va dire. Sous réserve, évidemment, enfin, on n'a pas la maîtrise de ça, mais là, je vous donne bien entendu l'indication telle que nous, on le ressent des informations de promoteurs. Maintenant, ça leur appartient, évidemment. C'est eux qui ont cette maîtrise.
Et ça concerne combien de logements?
Alors, je vais vous parler de mémoire. Sur l'OAP numéro 10, en tout cas la partie sud de Césarine, il y a de mémoire de l'ordre de 45 logements. Grosso modo, moitié maison individuelle, moitié appartement. Et l'OAP numéro 11, on doit être sur une vingtaine, mais je me retourne un peu vers Michel et vers Sylvie. C'est ça, hein, je 18, non, oui. Je ne sais plus. Un 18,
voilà,
hein, c'est
un petit
ça,
peu moins, je crois que c'est 18.
Oui, merci Michel.
Avec des collectifs?
Que du collectif sur la
que
deuxième.
Du collectif.
Sur la 11 partie est et que du collectif.
Sur la 11, oui.
Oui, tout à fait. Tout à fait.
Oui, je vais poursuivre sur... c'est pas une question que j'ai pas posée, mais vous pouvez peut-être y répondre. La modification du PLU, vous la prévoyez pour quand?
Michel ou Jean-Luc?
Aujourd'hui, il n'y a pas de date fixée. On a recensé un certain nombre d'observations. C'est quelque chose qui est prévu. On attend d'avoir quelques informations complémentaires de planification des avancées du dossier AVAP pour voir si on est ou pas à faire une simultanéité entre les deux process pour éviter de démultiplier les retouches, si je puis dire, de documents.
Ce qui veut dire que ça ne serait pas une modification, mais une révision, si on y inclut la VAP.
Alors, on est un peu entre les deux, c'est-à-dire que même sans inclure la VAP, la problématique est qu'on interrogeait les services compétents pour avoir, pour recueillir leur avis sur un certain nombre de points qu'on souhaitait mettre à modification, révision, ils sont probablement plus contraignants que ce qu'on pensait et du coup les points qui pourraient être en modification la balance entre les deux fait qu'on serait probablement à aller sur le process le plus lourd, mais pour l'instant il n'y a aucune décision de prise.
C'est une révision, ça prendra beaucoup plus de temps.
Oui.
Et on passera par l'intermédiaire d'une enquête publique.
Tout à fait. Alors, dans les deux cas aussi, dans le cas de la modification aussi. Mais
dans le cas de la modification aussi.
Oui, il y a de toute façon une enquête publique.
On pourrait eu ça. Si.
Le process est moins lourd, mais malgré tout, il y a...
Il y a une question sur le club aussi.
Oui, sur le club, en ce qui concerne le loyer.
Alors, posez toutes les questions, parce que je vais répondre en une seule fois.
Alors, le loyer, ce que vous aviez, en fait, c'est ce que vous avez déclaré au Conseil municipal de novembre. Hein, voilà. Le loyer, quel niveau de loyer? Les modifications des représentants au Yacht Club que vous aviez annoncées, elles ne sont pas faites, mais est-ce que vous avez l'intention de les faire ou pas? Et la convention signée avec le Yacht Club, c'est-à-dire savoir qui fait quoi et qui paie quoi, est-ce qu'elle est faite? Est-ce qu'elle n'est pas faite? Et alors, où est-ce qu'on en est?
Voilà. Alors, on en est que vous avez constaté qu'il y a un changement de président. On a eu quelques dissensions avec l'ex-président au cours des derniers mois sur une question de recrutement qui avait été fait et que je ne souhaitais pas voir prolongée. Et je lui avais signifié son bureau a estimé qu'il ne pouvait plus continuer dans ces conditions à exercer sa présidence. Et donc, j'étais en attente d'avoir une nouvelle gouvernance au Yacht Club, qui est donc le cas depuis vendredi dernier. Et donc, je rencontre la présidente ce week-end et nous allons lui soumettre une proposition de convention, sachant que l'actuelle va jusqu'en mars 2018, donc on a du temps. Et donc à ce moment-là, nous allons entrer dans les négociations pour à la fois la gouvernance, mais qui n'a pas vocation à être modifiée. La situation actuelle avec deux administrateurs de la commune me convient parfaitement. Et puis des questions plus prosaïques, comme effectivement le loyer qui sera fixé dans les semaines qui viennent. Pour ce qui concerne les administrateurs et leur nomination par le conseil municipal, nous ferons ça au prochain conseil municipal de septembre. Et donc le conseil municipal sera amené à voter pour désigner ces deux administrateurs. Pour ce qui concerne la convention, effectivement, à part celles qui sont en vigueur, parce qu'il y a déjà des conventions qui sont en vigueur, hein, y compris pour des conventions sur les subventions pour les animations, elles existent déjà, le conseil municipal les a votées, et même réponse que pour la nouvelle convention, ce sera à l'ordre du jour d'une réunion de travail avec la nouvelle présidente. Nous avons également convenu avec la nouvelle présidente, en dehors des instances légales de l'association, de créer un groupe de travail qui s'appellera Yacht Club 2025 et qui sera à la fois composé de membres de la commune et du Yacht Club, mais en y intégrant à la fois des gens, des agents, des services techniques et puis toutes les compétences éventuelles côté élu, mais également côté Yacht Club, pour y intégrer également le directeur opérationnel, pour travailler sur le projet. C'est pour ça qu'on l'a appelé Yacht Club 2025, de rénovation et de remise en état, puisque un certain nombre de travaux importants devront être faits dans les années qui viennent, pour constituer un projet pour l'avenir du Yacht Club, à la fois un projet sportif, mais ça, c'est en cours d'élaboration au sein du autre club, parce que c'est le comité directeur du autre club qui travaille sur ces questions, mais également pour les infrastructures, puisqu'il va falloir aller chercher des subventions, et ces subventions, on ne les obtiendra que si on a un document qui est capable de décrire un petit peu la nature, l'ampleur et la stratégie du projet pour le nouveau autre club. Donc c'est à l'ordre du jour dans les jours qui viennent de ma rencontre avec la nouvelle présidente. Voilà. Avant de terminer ce conseil, j'ai une annonce à vous faire. Monsieur Xavier Robert a été embauché au poste de DGS de la commune de Plumeur. Et donc, pour pouvoir exercer cette fonction, il a demandé à être réintégré à la commune de Carnac. Il sera immédiatement prêté pendant une période de 6 mois avant mutation définitive à la commune de Plumeur. Et donc, je me devais, pour des raisons, j'imagine, légales, d'informer le conseil municipal de cette demande de réintégration et ensuite mutation à Plumeur. Sur ce, je vous souhaite un beau week-end. Merci à tous.